With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes courtes parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape, chiffon,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité celle qui enchante nos tables avec ses céramiques. Après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, Caroline Petit-Mason est passée de l'upcycling de meubles à la céramique. Caroline est la sœur jumelle d'Alix Petit, créatrice d'Emstone. Alors c'était intéressant d'avoir la vision, je voulais avoir la vision de Caroline au niveau de la mode. Et pour elle, c'est juste un moyen d'expression pour être bien dans sa peau. Et en fait, quand on creuse bien, la mode n'est vraiment pas un sujet pour elle. Bonjour Caroline.
Bonjour Valérie.
Alors, le 12 septembre 2017, figure-toi que j'ai interviewé ta sœur, 5 ans déjà. Elle est enceinte de Panda.
Elle est beaucoup plus vieille que moi.
Alors, elle est beaucoup plus vieille. Ouais.
Je plaisante.
D'ailleurs, j'ai calculé votre âge.
Ouais. Ah,
bientôt.
Et oui.
Le cap de la quarantaine.
Ça arrive à grand pas. Très bien.
Ça t'angoisse ou pas?
Non, pas du tout, parce que on a déjà toujours eu notre mère qui nous a toujours dit que pour elle, les meilleures années, ça a été les années de sa quarantaine. Et qu'on a passé les années où on se posait des questions à 20 ans, qu'on a monté ce qu'il fallait qu'on monte, qu'on a créé notre famille, etc. Et que du coup, les années de la quarantaine, c'est un peu les années où on souffle et on se régénère.
Ouais.
Régénère,
ouais.
Et du coup, on est excités, on attend ça avec impatience.
Et ta maman, qu'est-ce qu'elle dit pour la cinquantaine?
40, 50 ans, c'était bien, et 60, ça commence un petit peu à dégringoler, donc il faut en profiter.
Alors, qui es-tu, Caroline?
Alors, eh bien, j'ai 39 ans, donc. Je suis née en France, j'ai grandi en France jusqu'à mes 21 ans.
À Paris,
ouais. Et je suis ensuite partie vivre aux États-Unis pour, à la base, qui devait être un an, et en fait, je suis restée 12 ans. Et qui m'a permis de construire une grosse partie, j'imagine, de ce que je suis aujourd'hui, puisque j'ai rencontré mon mari le premier jour où j'ai atterri à Los Angeles.
Ah, carrément ?
Ouais. Alors, je l'ai un petit peu fait mariner pendant un an, mais en tout cas, c'est la première personne que j'ai vue en sortant de l'avion.
Quoi, il était steward ?
C'était un ami qu'on avait en commun, j'avais croisé 2 jours avant de partir, et qui m'a dit, si tu veux, j'ai un de mes meilleurs copains qui vit à Los Angeles. Est-ce que tu veux qu'il vienne te chercher? Si tu vas voir, c'est le mec le plus cool et le plus gentil que tu rencontreras de ta vie. Et donc, Jonas Mason est venu me chercher à l'aéroport.
Et coup de foudre.
Oui, j'avais jamais vu en fait un physique pareil. Il ressemblait à rien de ce que j'avais vu. Il avait les cheveux longs, on aurait dit un Indien avec des grands... Enfin, il était... Et j'avais surtout été hallucinée de la gentillesse de la personne.
Mais ça se voit, il le porte sur son visage.
Ah oui, il est vraiment... une telle humanité. Et en fait, il avait pris soin de moi pendant... parce que je suis évidemment arrivée en larmes d'avoir quitté ma sœur, etc. Et mon petit copain de l'époque.
Tu avais quel âge?
J'avais 21 ans, donc ça paraît très puéril. Mais moi, je suis née à deux, donc c'était une...
Je suis née à deux, j'adore cette...
Bah oui, parce qu'on dit toujours on est seul et on meurt seul. Moi, je suis née à deux, donc ma conception est assez différente. Et c'était ma première grosse... La première fois que je me retrouvais, en fait, à l'autre bout du monde, sans mon coussin de sécurité, qui était ma famille et Alix.
Et pourquoi t'es partie, en fait?
Parce que j'ai toujours dit que je voulais partir. J'ai toujours... Je déteste les conflits et j'ai toujours trouvé qu'à Paris, alors c'est peut-être dans Alix, pareil, on a toujours voulu fuir un peu ces histoires de petites filles d'école. On a jamais été bien là-dedans. Et j'ai toujours senti assez viruleusement ça. C'était toujours compliqué. Il y avait toujours des histoires, des trucs qui, en fait, me prenaient du temps pour des choses dont j'avais vraiment aucun intérêt. Et puis on a eu des parents qui nous ont toujours vachement poussés à partir à l'étranger. Depuis qu'on est petit, on va faire on part dans des summer camps, etc. Donc ils nous ont toujours énormément poussés à faire du sport, apprendre d'autres cultures, de s'ouvrir au reste du monde. Et du coup, ça avait payé ses fruits puisque j'avais très envie de partir. Et puis au moment où je l'ai dit,
quand t'es partie, c'était pour un métier, pour faire un stage.
Ouais, alors je partais chez TBWH IAD, qui est une grosse boîte de com. Et en fait, je travaillais à Paris pour TBWA et j'avais demandé à ma maître de stage. Mais un jour, il y avait un poste qui se libérait à New York. Que c'était mon rêve, etc. Et du coup, mon stage qui s'était très bien passé chez TBWA, il y a eu un jour, elle m'a dit, il y a un poste qui s'est ouvert, est-ce que tu veux partir là-bas ? Et voilà, et en fait, je m'étais dit, il fallait que je me remette au niveau d'anglais, parce qu'on pense toujours en France qu'on parle anglais, alors qu'en fait, quand on arrive dans une boîte 100% américaine, on ne parle pas un mot d'anglais. Mmh. Et du coup, j'avais décidé de partir pendant un an, juste avant, parce que le poste ne se libérait pas tout de suite.
Ah d'accord,
à Los Angeles. Donc, j'ai passé 8 mois à Los Angeles et après, je suis partie à New York pour le poste à New York.
Et comment tu t'es retrouvée dans l'upcycling de meubles ?
Eh bien, j'ai fait 3 ans et demi chez TBWA, qui était hyper dur en vrai, parce que j'ai vraiment dû serrer les dents pour y arriver, parce que c'est une boîte qui est déjà 100% américaine, qui est très... qui est tenu que par des jeunes de 24-25 ans, mais qui sont tous des tueurs à gages. Enfin, j'avais
des tueurs à gages.
Non, mais c'est parce qu'ils étaient tellement intelligents, quoi. Il y avait une énergie tellement différente que ce que je connaissais en France. Et puis, j'étais impressionnée par ces nanas qui avaient 24 ans et qui étaient directrices de... qui s'occupait de gros budgets, etc. Donc, j'avais été assez intimidée, mais j'ai compris qu'il fallait que je serre le dent et que j'y arrive. Et puis, moi, j'avais quand même mes lacunes d'anglais, qui, même si je me démerdais, j'étais en plus planning stratégique, il faut savoir manipuler la langue. Et en fait, donc, ça a été très enrichissant, ce que j'ai appris énormément. Et ça a été dur. Et que je me souviens que ma mère m'avait un soir envoyé un mail où j'avais dû lui dire que c'était le rythme était quand même chaud. Qui m'avait dit, mais dis-toi qu'une fois que tu auras passé ce cap-là, tu n'auras plus jamais peur de rien, tellement c'est une avancée colossale quoi, d'arriver dans une énorme boîte comme ça. On était sur Madison Avenue, enfin, c'était absolument incroyable. Donc très enrichissant. Mais à côté de ça, j'étais donc avec qui n'était pas encore mon mari, mais je sortais avec Jonas. Et en fait, Jonas étant mannequin, hyper artiste, il fait beaucoup de photos, etc. En fait, il avait une vie pareille, je ne savais pas que ça existait, en fait, des vies comme ça. Il vivait à New York, il voyageait tout le temps, il bossait beaucoup moins que moi parce qu'il bossait sur des shootings.
Plutôt en freelance, du coup.
Alors, je ne sais plus ce qu'était exactement son statut. C'est un espèce de statut... En fait, il a un agent et il voyageait aux quatre coins du monde. Il gagnait beaucoup plus d'argent que moi et on en est avec beaucoup moins de stress. Et puis, je ne sais pas, il était tellement... inspirant de gentillesse. Il est hyper bien élevé. Il fait hyper gaffe aux gens. Même moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Tous les matins, il m'apporte mon thé dans le lit. Si on marche dans la rue, il va jamais me laisser marcher du côté voiture. Il va toujours me rentrer dans le trottoir.
C'est la galanterie, en plus.
Ouais. Et en fait, mais il a ça en lui, quoi. C'est pas un petit coup de bluff. Je me disais, mais c'est quoi, d'ailleurs, le problème avec ce mec ? Il peut pas être aussi... Et en fait, si, mais donc voilà, il y avait la vie de Jonas à côté qui me paraissait, il avait une telle liberté. Et puis, il y avait Alix qui a monté M-Stone quand moi je suis partie aux États-Unis et qui, du coup, venait beaucoup à New York parce qu'elle avait ses agents qui étaient à New York. Et en fait, je me disais, non, mais pareil, c'est dingue, en fait, la liberté qu'elle a, qui aussi a le prix de l'enchaînement qu'elle avait financier, etc., de développer sa marque. Mais je me disais, c'est quand même dingue. Elle partait prendre un billet d'avion pour faire ses shootings à New York, rencontrer, alors que moi, j'étais tous les matins, j'allais au bureau, que j'adorais.
Avec une pression dingue.
Avec une grosse pression, mais... Donc voilà, je m'étais dit, en fait, c'est que j'apprends tant qu'il y a... Parce que c'était tellement incroyable, formation, etc. Et puis un jour, je crois que j'ai eu envie de sortir de ça. Et surtout de me dire qu'en
de
fait,
cette
la
forme
vie
de zone de confort, en fait.
Oui, mais alors, j'ai jamais été encore en zone de confort parce que j'allais quand même tous les matins. Alors, je dis pas la boule au ventre, mais j'y allais, j'ai jamais été en zone de confort parce que. Parce que déjà, je suis hyper perfectionniste, donc je sais que le travail demandé, moi, j'ai jamais pu rendre un truc qui était à moitié fini. Donc, si je finissais pas, il fallait. Enfin, j'étais soit à 6 heures du mat au bureau, soit je restais jusqu'à minuit, quoi. Donc, j'ai jamais été sur mes acquis, puis ça changeait tellement rapidement que voilà, c'était toujours enrichissant. Mais je me disais... Enfin, je sentais qu'en moi, il y avait autre chose à explorer. Mmh. Et puis, on est quand même dans une famille très entrepreneuriale.
Oui,
on a,
c'est ça,
on a baigné dans tout ce, que, tout ce qui est l'esthétique, l'art, etc. Donc, on a ça en nous. Et moi, je m'étais un petit peu interdit ça sans aucune douleur parce que j'ai trouvé ma voie autrement. Mais j'ai vu Alix tellement affirmée dans ce domaine-là depuis qu'elle est toute petite, où elle dessine comme une malade tout le temps.
Oui, elle m'a dit que vous tricotiez des bonnets ouais. sur la plage.
Et moi, j'ai toujours été très manuelle. Donc, en vrai, les tricots de bonnets, c'était moi qui commençais. Ah ouais, parce que Alix, à chaque fois, hein, Alix. Voilà. Je prends le crédit de mes petits bonnets, là. Mais voilà, Alix, c'était très, très artiste. Moi, j'étais très manuelle. J'ai toujours bricolé des trucs avec mes mains, etc. Et en fait, je pense qu'une fois que, après TBWA, ou en tout cas, je me suis dit que c'était clairement le moment où moi aussi, j'avais des choses à voir. Et donc, on a commencé... Je suis désolée pour ma réponse hyper longue pour te répondre sur les meubles. On est parti avec Jonas à un Thanksgiving et on a traversé une partie des États-Unis pour aller jusqu'à chez ses parents. Et en fait, on s'est arrêté dans toutes les petites brocantes américaines, dans tous les bleds. Et j'ai dit à Jonas, mais si jamais ça pouvait être notre vie, en fait, de chiner des meubles, de les revendre, je ne sais pas où.
Tu les revendais où, du coup, alors ?
Et ben, en fait, nous, on voyageait pendant 6 mois. On récupérait les meubles, on retapait les meubles parce qu'on avait aussi notre atelier à New York où pendant nos voyages, en fait, on démontait des fermes, des vieilles fermes pour récupérer le bois, etc. Et on s'était mis à fabriquer nos propres meubles. Donc, j'étais vraiment devenue menuisière parce que j'ai passé des heures pour apprendre à faire une table.
T'es vraiment une passionnée.
Ah ouais, moi, j'adore. Et puis, moi, j'ai pas du tout le blocage de me dire je ne sais pas faire ou je n'ai pas l'éducation pour et je vais pas y arriver. Pour moi, c'est un truc qui... Mais qui concrètement, je dirais, c'est même pas en fait de l'insouciance, c'est que c'est un truc qui ne me percute même pas, de me dire je vais faire des meubles et je vais apprendre à monter.
Mais pas des interdits.
Ouais. Non. Mais pareil avec la céramique.
Et alors, comment t'es arrivée dans la céramique ?
De la même manière où je me suis dit tiens.
Parce que quand vous êtes rentrée en France, c'est à ce moment-là que t'étais mise dans la céramique ?
J'avais fait quelques assiettes pendant qu'on faisait les pop-up. En fait, on voyageait pendant 6 mois. Mmh. Ensuite, une fois qu'on estimait avoir suffisamment de matos, on envoyait des containers en France et on ouvrait une boutique éphémère pendant 6 semaines. Mmh. Donc, on avait vraiment l'impression de ramener un carnet de voyage. On vendait tout et on repartait. Et ça nous permettait d'aller dans un autre coin des États-Unis, etc. Donc, c'était vraiment la grande liberté, cette époque-là. On a adoré. Et puis, quand je travaillais encore chez TBWA, j'avais rencontré une nana à Paris pendant que j'étais en... Il fallait que je renouvelle mon visa de travail. Et en fait, tu peux pas rester sur le territoire aux États-Unis. Donc, j'étais rentrée à Paris, j'avais rien à faire. Et j'ai rencontré dans la rue une nana qui s'occupait d'un... qui s'appelle Claire Lecreux, d'ailleurs, qui a un atelier, je t'enverrai le lien, qui est maintenant à Périgueux, je crois. Elle a un atelier, c'est hyper beau ce qu'elle fait. Et en fait, je dois à cette fille beaucoup de choses parce que c'est vraiment elle qui m'a... Alors que c'était il y a 15 ans, donc c'était bien avant que je commence la céramique. Mais c'est grâce à cette rencontre, je crois qu'aujourd'hui, je fais de la céramique. Et du coup, bref, j'étais allée faire quelques assiettes avec elle. Elle s'occupait de me cuire les trucs, etc. Donc, je faisais vraiment la partie agréable, pas du tout technique. Et en fait, ça n'est que 15, 10, 12 ans après, quand on a décidé d'arrêter les meubles, où Jonas m'a dit « Tu devrais faire tes assiettes, sous-entendu, les trois petites merdes que tu fais dans ta cuisine quand tu rentres à Paris. Et tu devrais les faire pour... Et je suis sûre que ça marcherait. » Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. On a fait un salon de maison et objets qui a cartonné, alors que le truc était... Et pareil, je remercie toujours beaucoup le Bon Marché parce que c'est eux qui
nous ont soutenus dès le départ.
Ils sont venus le premier jour nous acheter, m'ont demandé de faire une boutique éphémère pour ce même Noël-là au Bon Marché. Et donc, je dis toujours aux filles du Bon Marché avec qui on est encore en contact parce qu'on refait un très beau projet avec eux là, à partir du mois d'octobre. Je leur dis à chaque fois que je leur dois beaucoup parce qu'elles ont cru en moi alors que c'était le bordel. Quoi. J'avais pas d'atelier, ça faisait 15 ans que j'étais pas rentrée vivre à Paris, il a fallu que je forme une équipe hyper rapidement, je savais même pas où trouver les gens.
L'utilité d'Instagram, je voyais les annonces passer.
C'était pas encore Instagram, on n'y était pas encore. C'était 2017, ça commençait, mais on n'y est plus, tu vois, c'était une autre époque. Quoi. Et pareil, notre histoire de meubles, on aurait adoré.
2017, il y a 5 ans, c'est ça.
Ouais.
C'est fou comment le
Ah mais hallucinant quand tu dis qu'aujourd'hui nous on a toutes nos ventes passent par Instagram quoi.
Ouais, c'est ce que tu disais. Et la boutique aussi, tu as la boutique.
Oui, il y a la boutique, mais la boutique c'est nouveau, ça fait 8 mois qu'on l'a.
Très jolie boutique d'ailleurs.
Merci.
Où tu te puises ton inspiration pour créer tes...
Alors
tes vases, tes assiettes, tes plats.
Déjà on a un business model qui fait que on sort très peu de nouveautés. Parce que je voulais justement être une marque et parce qu'on fait de l'artisanat et qu'on a un temps de fabrication qui est délirant. je voulais justement mettre en avant le côté collection des pièces.
Chaque pièce est unique.
Chaque pièce est unique parce qu'elle est faite à la main. Après, on est très précis dans le côté artisanal, c'est-à-dire que les dessins sont calibrés pour qu'on ait d'un motif à l'autre. Enfin, tu vois que c'est le même dessin, parce que je voulais pas le côté un peu de traviole de l'artisanat, même si je trouve ça hyper charmant pour d'autres marques. Moi, je voulais un truc très fini. Et donc, on a... en fait, c'est des formes qui sont toujours très simples et très rondes. J'aime le côté... je voulais vraiment... L'idée de base de la marque, c'était d'avoir une coquille d'œuf dans la main, d'où la couleur ivoire. Et je voulais, en fait, qu'il n'y ait pas trop d'informations, comme on a des motifs qui sont très présents. Je voulais un juste équilibre entre des pièces très simples et très aériennes, quelque part. Et le motif qui vient sublimer la pièce. Et donc, tout le principe, on a pas mal de motifs et c'est en fait de mélanger tous les motifs qui ont été pensés pour aller ensemble. Donc, en vrai, on a... et en fait, on veut vraiment valoriser ça plus qu'on sort de temps en temps des capsules. Mais on veut justement ne pas... de se dire qu'en fait, tu viens compléter ton service au fil des mois, des années, etc. Et qu'on reste toujours sur une même teinte.
C'est un intemporel.
Exactement. Et on voulait sortir un peu de cette frénésie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait jamais de soldes. Parce que, en fait, on n'a jamais de. Enfin, l'artisanat, c'est vraiment. Ça pousse à la raison, en fait. C'est-à-dire qu'on ne produit que ce qu'on peut produire à l'atelier. Et on vend que ce qu'on a produit. Donc, on peut pas. On n'a pas d'excès de stock. Et comme on n'a pas de saison, on n'a pas des stocks qu'on a besoin d'écouler et se débarrasser. Ce qui est toujours, je suis désolée pour, enfin au moins peut-être que vous comprendrez mieux pour les gens qui nous écoutent, mais c'est la raison pour laquelle on n'a pas de solde. C'est que en fait, on a, nous notre problème, c'est d'avoir suffisamment de stock pour les demandes qu'on a. Et puis pareil, parce qu'il y a un tel temps de travail sur chaque pièce que c'est pas possible.
C'est intéressant et ça peut justifier les prix aussi.
Oui, surtout qu'on n'est pas, pour de l'artisanat, on n'est pas hyper cher hein, parce qu'on est aligné sur beaucoup d'autres marques. Sauf que nous, on a généralement, c'est des marques qui ont un vrai travail avec l'émaillage, etc. Nous, on a un tel travail de dessin. Enfin, il y a par exemple sur ce bol-là qui est en face de nous, il y a 45 minutes de dessin sur la pièce.
Fou.
Donc, on n'est vraiment pas...
C'est important de le dire. Et c'est bien, tu le montres. Tu avais eu des galères de terre il y a un an ou deux ans.
Il y a deux ans maintenant.
Deux ans, c'était pendant le confinement.
Ouais, c'était l'année
bien
avant
que tu partages, justement. C'est très intéressant.
Ah ouais, ça, pareil, parce que c'est toujours... Enfin, je sais pas si c'est français, mais il y a toujours ce rapport à l'échec. Mais en fait, moi, j'ai jamais pris toutes les choses qui me sont arrivées à ma petite échelle comme des échecs, parce que pour moi, c'est que des expériences, en fait. Et en fait, je me dis toujours qu'on en ressort toujours plus fort, parce
c'est un côté anglo-saxon, en fait.
Pense. Et en même temps, on a aussi toujours eu vachement notre père qui nous a toujours dit que. En fait, plus tu fais de choses et plus tu tombes, plus tu te relèves.
Bien sûr.
Et plus c'est ça qui te renforce. Et en fait, de temps en temps, il y a des choses qui arrivent où on se dit, non mais mon Dieu, l'enfer, parce que j'ai quand même fermé le site internet pendant pratiquement un an.
Je sais, je m'en souviens.
Ça a été quand même un gros truc. Et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, on produit tellement mieux. On est tellement plus efficace, on a tellement optimisé tout ça. Et en fait, si cette étape-là n'était pas arrivée, eh bien, j'aurais sans doute jamais pu ouvrir ma boutique parce qu'on n'aurait pas eu une production suffisamment efficace pour... Donc, souvent, il faut juste avoir la patience de comprendre pourquoi est-ce que quelque chose arrive.
C'est intéressant.
Pour en voir le côté positif. Bon, après, c'est parce que parfois, on n'a pas le choix que de voir
c'est
le côté...
Oui, c'est ça. Non, mais tu aurais pu dire, bon, allez, j'abandonne tout.
Ah oui, alors ça,
je change.
Ça m'est jamais passé par la tête.
C'est ça qui est bien. Mais alors, comme je disais, le 12 septembre 2017, j'ai interviewé ta sœur. Donc, comme vous êtes jumelles, je vais te poser exactement... J'ai réécouté son épisode hier et je vais te poser exactement les mêmes questions.
Très bien, j'espère
comme
que je vais
ça permettra,
répondre.
Ça permettra de voir... Peut-être tout de suite dans la compétition, tu vois.
Non, en vrai, non, c'est juste ça.
Je sais.
Évidemment, je vais répondre mieux qu'elle.
Quel est ton style ?
Alors, très caméléon, je vais dire. Parce que je peux adorer être hyper chic, hyper sapé, hyper chic. Et en même temps, j'ai toujours un côté très boyish où je peux être très bien en très large, dégueulasse, avec un t-shirt vintage et des baskets. Donc, je suis très caméléon, suivant vraiment mon humeur.
Tu veux savoir ce qu'avait dit ta sœur ?
Vas-y.
Elle avait une silhouette masculine et boyish.
Oh. Ouais, alors je trouve que ça a vachement changé. Oui. Enfin, si, elle peut avoir... Non, boyish moins que... Non.
Moins qu'il y a 5 ans, peut-être.
Ouais, Alix, elle est très... Elle aime bien être hyper sapée. Mm. Souvent très sapée.
Elle a peut-être changé en 5 ans.
Bah ouais, elle a maturé.
Quelle est la base de ta garde-robe?
Alors, je vais pas vous mentir, j'ai, je pense, 70% de Hemstone. Que j'adore et de temps en temps et que je mélange très bien aussi avec des pièces vintage et j'ai beaucoup de pièces de fripe, des t-shirts etc. J'ai mon mari.
Tu les achètes où ?
Bah alors ça c'est le job de mon mari qui est un fan de fripe et donc il va aller parcourir tout Paris et d'autres endroits pour aller chercher à chaque fois des merveilles. Lui je pense qu'il n'a jamais acheté un truc dans un magasin. Un vrai magasin, et il s'habille qu'avec des vêtements de fripe, et du coup, il me fait toujours ma sélection. Donc voilà, c'est vraiment Hemstone ou fripe. Donc c'est le... Comment tu dis le... quand elle a un dédoublement de personnalité, quoi. Il y a le...
Caméléon.
Ouais, il y a le caméléon.
Ou un grand écart.
Schizophrénie, j'allais
chercher un petit peu. Quel est le vêtement dont tu ne te sépareras jamais?
Je sais pas, rien en fait, j'ai aucune attache matérielle, c'est genre perturbant parfois.
Pourquoi ce serait perturbant ?
Bah, je sais pas, parce que je me dis, il y a peut-être des pièces, ou même il y a des pièces où il y a vraiment une émotion, parce que ça me rappelle une époque, etc. Mmh. Mais en vrai, j'en ai rien à faire. Mmh. Je pourrais donner toute ma garde-robe, et puis reprendre des trucs, etc. Et puis j'y pense pas en
ouais,
fait.
Ouais, t'es pas attachée ?
Non, vraiment, mais matériellement, j'ai aucune attache à rien.
Ta sœur m'avait parlé d'une paire de chaussures Chanel.
Ah oui, je me souviens très bien. Ouais.
Le matin, comment ça se passe ? Tu te lèves très tôt ?
Oui.
Est-ce que tu prépares ta tenue la veille ou alors pas du tout ?
Ah non, alors pas du tout. C'est marrant parce que c'est toujours notre mère, parce que comme on a beaucoup de Hemstone, dès qu'on va dîner ensemble, qui nous dit toujours « Vous allez mettre quoi 2 jours avant ?» Je suis maman, mais je vais y réfléchir 4 minutes avant de m'habiller en fait. Et c'est juste pour qu'on se... Est-ce que ça nous arrive d'arriver à habiller comme 3 tartes ensemble ? Le matin, non, alors déjà oui, je me réveille très tôt, je vais aller courir et suivant mon humeur, comment je m'habille. Donc si, j'en sais rien, de temps en temps, je vais avoir envie de me mettre un truc hyper moulant, un peu sexe, etc. pour aller au bureau. Et de temps en temps, j'ai envie d'y aller habillée en sac poubelle, comme dirait ma mère. Et là, je suis capable d'y aller en grosse salopette.
Ouais, tu t'en fiches.
Non, alors c'est pas que je m'en fiche, parce que je suis, pour être tout à fait honnête, je suis soucieuse de mon apparence, c'est-à-dire que c'est pas comme, enfin, mais qu'en fait, c'est vraiment ce que je vais mettre, c'est mon humeur de la journée.
Voilà, c'est ça, tu t'écoutes.
Oui, voilà. Si j'ai envie d'être confortable, je vais me mettre un truc confortable, mais par contre, je vais toujours avoir quand même un petit côté un peu style.
Ah, quand même. Un
ah
tout
oui,
petit
non,
peu.
Clairement, oui, je vais pas.
Dans quelle tenue te sens-tu déguisée?
Aucune, parce que je crois que ça ne m'arrive jamais de mettre un truc où je suis suffisamment mal dedans pour pas me sentir moi. Mm-hmm. Donc jamais.
Et t'as le souvenir d'un fashion faux pas?
Alors moi, le fashion faux pas, c'est encore une fois un rapport qui est très intime. C'est quand on met quelque chose qui n'est pas nous. Mm-hmm. Alors si, j'ai dû en faire plein des fashion faux pas, parce que je regarde maintenant avec un œil un peu critique sur les années passées. Mais je crois que quand je m'habille, je suis potentiellement toujours bien. Sauf si j'ai des chaussures trop petites, par exemple. Là, je vais passer
ça, c'est encore autre chose.
Ouais. Mais non, je crois que j'ai vraiment... Mais Alix, c'est aussi beaucoup le côté il faut être bien dans ses fringues, parce que c'est comme une seconde peau. Donc,
qu'elle avait dit. Moi, elle m'avait parlé de mini-jupe talon. Elle m'avait dit ça jamais.
Ah ouais, moi, je pourrais la tenter, ça.
Toi, tu pourrais ?
Ouais.
Quelle est ta couleur fétiche ?
J'en ai pas. Je suis très sensible aux couleurs et aux lumières, mais j'ai pas de détesté. Enfin, s'il y a une association que je déteste, c'est le blanc-blanc avec le noir. Mmh. Alors qu'un crème et du noir, je trouve ça très joli. Blanc et du noir, je trouve ça hyper brutal. Mais j'ai pas de... Non, moi, j'aime bien les... J'adore les couleurs, etc. Mais j'ai pas de favoris. C'est hyper chiant, mes réponses que j'ai...
Non, ta sœur était tranchée. Elle était le rose, parce que pour elle, c'est rock'n'roll. Bah, il y a 5 ans, on verra, elle a peut-être changé
depuis. Si, non, elle adore toujours le rose.
Ton dernier achat ? Bah non, du coup, c'est... Tu vas puiser chez Hemstone ou alors c'est ton mari ?
Si, des lunettes, Céline.
Je sais pas, comment tu me dis ça, t'as l'air complètement dépité.
Eh bah, parce que je viens de chercher... En fait, je n'achète jamais de vêtements parce que c'est soit Jonas, soit Alex qui s'en charge, en gros. Enfin,
c'est vrai, tu vas jamais. Ouais,
Ah non, moi je vais jamais faire les courses. Mais d'ailleurs, quand Jonas me dit on va faire une brocante, machin, etc. Oh, pour moi, c'est l'enfer d'aller dans un magasin. Enfin, où même dans une boutique. Ouais. Mais c'est, je suis insupportable. Je déteste. J'ai pas la patience de regarder.
Quoi, pour toi, c'est une perte de temps?
Je sais pas. Je trouve que tout se ressemble. Tu vois les grands multimarques, etc. Je me dis, mais l'enfer de ces rayons de vêtements.
C'est intéressant tout ce que tu viens de dire. Tout se ressemble.
Ah ouais. Je trouve qu'il y a pas de, il y a rien qui me m'émeut. Je trouve que de temps en temps, quand il y a une belle pièce, je trouve que les prix sont délire. Enfin, je sais pas. J'ai pas un truc où je me dis waouh, j'adore.
Mmh. T'es pas du genre à feuilleter les magazines, à dire tiens, après, je veux ça. Ah, et ton rapport à Instagram, est-ce que tu scrolles beaucoup?
Non, je scrolle beaucoup de la bouffe, pas du tout de la. Mais j'ai genre, et d'ailleurs, je suis jamais targetée. C'est marrant, par des marques de. Ah si, je me fais targeter par des marques de tenues de yoga et de running. Donc, toutes mes tenues à chaque fois. Et d'ailleurs, je m'excuse aussi, j'en profite pour toutes les personnes qui me demandent à chaque fois mes leggings. C'est qu'en fait, c'est des marques qui me targetent sur Instagram. Mmh. Au bout du troisième, ils ont suffisamment poussé le truc. Je me dis, allez, c'est bon, je craque. Mais c'est des marques qui ont des noms complètement... je connais pas. Oui. Et en fait, il n'y a pas les noms dans les étiquettes. Donc, je ne sais pas les noms des marques. Donc, je m'excuse quand je vous réponds que je ne connais pas la marque de mon legging. Mais voilà, non, j'ai vraiment mais aucun intérêt sur la... Enfin, c'est marrant parce que c'est important pour moi. Mais c'est... J'ai pas d'intérêt par... pour la mode, de feuilleter. Je sais, j'ai aucune idée de quelle marque a fait quel défilé, etc. C'est vraiment...
Et pour tes enfants?
Non, alors mes enfants, ils sont habillés exclusivement par leur père et en fripe.
Ah, oh.
Oui. Mais par contre, ils ont tous les deux leur petit style, etc. Mm. Donc, c'est vraiment pas que... Parce qu'on a ça une grande importance pour nous, mais c'est pas du tout... je sais pas, déjà je m'en fous un petit peu des marques, donc j'ai pas besoin que de moi porter des marques ou que mes enfants portent des marques.
Tu vas être logoté de la tête aux pieds, c'est pas ton style.
Ah ouais, moi je veux juste qu'il ait un petit style, enfin il a juste son petit style sympa et ça me va très bien.
Qu'est-ce que l'élégance pour toi?
C'est dur comme question ça. C'est complètement bateau ce que je veux dire, mais peut-être une manière d'être. Je trouve que c'est de la gentillesse, un petit peu d'éducation, d'être poli. De la galanterie, parce qu'on attribue toujours ça aux hommes, mais je trouve qu'il n'y a rien de plus sympa qu'une nana qui laisse passer une autre nana. Et je trouve que oui, c'est une manière de parler plus que de... En fait, je trouve que l'élégance est très intérieure, alors qu'on a tendance à dire que ça vient par les vêtements et les bijoux que tu portes et la coupe de champagne que tu bois. C'est marrant, mais alors que pour moi, l'élégance, elle est très intérieure, en fait. C'est vraiment une...
C'est le comportement.
Oui, c'est avec un autrui. Comportement, ouais.
C'est ça. As-tu une icône de mode?
Pas du tout. Non, j'ai pas une icône de mode, mais par contre, je peux vachement regarder les gens dans la rue, être hyper inspirée par...
Même.
Oui.
Tu peux te mettre à une terrasse. Est-ce que t'es du genre à mater
non,
sur les terrasses?
Non, pas du tout.
Ouais.
Non, je suis hyper chiante. Pas du tout. non, mais si, je peux être... En fait, j'arrive à voir du beau dans toutes les... Déjà, j'adore les femmes. Je trouve que le corps de la femme est absolument incroyable.
Ta sœur m'a dit la même chose.
Ah ouais, mais je trouve qu'en fait... Et je trouve qu'il y a des détails. Je regarde toujours, tu sais, une main. Bah là, ta main qui tient le micro. Je trouve la légèreté de l'ossature, etc. Et tout ça m'inspire beaucoup. Plus que la globalité de quelqu'un. Donc, je peux vraiment aller prendre, tu vois, tes yeux bleu marine, etc. Et c'est tous ces petits détails-là qui, je trouve, sont très inspirants. Enfin, très... je sais pas, ça
qu'est-ce
fait
que
vivre quelque chose.
Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une personne que tu découvres?
Les mains.
Les mains.
Je suis obsédée par les mains. D'ailleurs, je pense que Jonas, j'ai fini par céder avec lui parce qu'il a des mains sublimes pour un homme.
On va
s'il
tout
avait
savoir.
S'il avait des mains moches, peut-être que je ne l'aurais pas... je ne l'aurais pas accepté. Non, je plaisante. Oui, dans les mains, parce que je trouve que ça en dit beaucoup, les mains.
Le pire des fashion faux pas.
Porter des vêtements dans lesquels t'es pas bien. C'est pour moi, parce que je trouve que tu le vois, tout d'un coup, t'es mal, tu tires ton t-shirt, tu sais pas comment te tenir, etc. Et ça, pour moi, c'est le pire.
Alors toi qui as vécu à New York pendant longtemps, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne?
Eh bien, je pense qu'il est très réel dans l'image, mais je pense qu'il manque terriblement de renouvellement et de prendre un peu de risque. C'est-à-dire que je peux, ça marche toujours, hein, la petite silhouette Jane Birkin. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle n'est pas française. Enfin, bref.
Elle est anglaise, hein, ça, à chaque fois on la cite, mais je le dis, elle est anglaise.
Mais, mais voilà, je trouve que ça manque vachement toujours. Enfin, je trouve ça très. Comment tu dis ça marche très bien. Tu regardes toujours parce qu'il y a un côté, je ne sais pas, on sait ce que c'est cette image. Mais je trouve que parfois, il faudrait se renouveler un peu. C'est toujours ce qui manque un peu, je trouve, à Paris, c'est le renouvellement de... des styles et puis de prendre un petit peu de risque et d'arrêter de ressembler à tout le monde.
Tu me disais avant l'émission que les gens sont assez moutons quand même et veulent tous se ressembler.
Moi j'ai vraiment l'impression, et alors je pense que c'est complètement décuplé, peut-être qu'on a toujours tous été comme ça, mais sur les réseaux sociaux, cette espèce de truc, du moindre truc qu'on porte, c'est quoi ce que tu portes, la marque. Et en fait, je trouve que... Et puis pareil, de toujours dire c'est quoi la, en quelle taille tu l'as pris, etc. Mais on n'a pas tous le même corps. Ça, et puis je trouve que... En fait, je trouve que ce soit comment dire, la mode et la manière de s'habiller, en fait, c'est un moyen d'expression et de créativité comme un autre. Et en fait, j'ai l'impression que aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se font tellement pas confiance que plutôt que se créer leur propre style, il faut qu'elles s'approprient un autre style qui, en fait, en soi, me gêne pas et que. Et je trouve ça toujours hyper touchant quand la nana dit « Ah, j'adore votre style, machin, etc. » Mais je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu triste de...
Ça, c'est un conseil que tu donnerais, oser ?
Non, c'est même pas un conseil, parce que je pense que je me le permettrais pas. C'est juste que... Mais on a la même chose avec les recettes de cuisine, où en fait, de toujours... Enfin, moi, je cuisine de manière très intuitive, donc j'ai jamais de... Je pèse pas mes aliments, etc. Et on a tout le temps des questions quand on dit « Vous mettez un bon filet d'huile d'olive ?» Mais un bon filet d'huile d'olive, c'est combien de grammes? Et on dit toujours, sur les recettes de cuisine qu'on fait, de sortir des zones d'inconfort dans la cuisine, parce que c'est censé être un endroit où, en fait, les sens sont en éveil. Et on y va au feeling, en fait, on passe un bon moment et tout. Et en fait, je trouve que c'est la mode est un autre moyen d'expression et qu'il faut juste l'approprier un petit peu et on peut s'inspirer de plein de choses, etc. Mais c'est vrai que le côté... puis les filles qui disent pas bonjour en disant « C'est quoi la marque de ça ?» En fait, ouais.
Un conseil de basique à avoir dans une garde-robe ?
Un bon jean, un bon débardeur blanc. J'adore les débardeurs blancs. Une belle paire de chaussures et une jolie robe.
Voilà, c'est la base.
Ouais, comme ça, t'as la tenue de la journée et le soir.
Le soir, c'est ce que tu vas faire quand tu vas partir ? Une valise légère avec...
Ah non, alors là, je vais partir avec... Oui, une valise très, très légère, parce que je vais partir avec un sac à dos, je crois. Je vais mettre 4 robes M-Stone dedans, 2 t-shirts et... Parce que c'est vrai que l'été, on est toujours habillé pareil. Enfin, c'est plus les maillots de bain et tout.
Tu parlais de cuisine, et je te harcèle avec ça depuis quand même pas mal de temps. À quand un livre de recettes ?
Ah ouais, bah, le livre de recettes, j'adorais, parce que c'est vraiment, en vrai, la finalité de pourquoi on fait de la vaisselle aujourd'hui. Et non, j'adorerais faire un livre de vaisselle, de recettes. On travaille dessus, mais il faudrait juste que j'ai le temps.
Ah, mais ça.
Et comme on est une génération qui avons un rapport au temps qui est quand même assez compliqué, on a le temps de rien, quoi. Et il faudrait que je puisse me poser pour développer ça. Mais ça va venir. Enfin, c'est en tout cas dans les tuyaux.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Alors, pour finir, j'ai demandé hier à ma communauté de te poser des questions.
Ouais.
Alors, j'en ai sélectionné 2. Je te les ai soumises avant. Alors là, je sais que tu intrigues beaucoup de monde et ta sœur aussi. Comment tu fais pour te lever aussitôt avec enfant, boulot et sport ?
Alors déjà...
Je crois que c'est la question... Je te coupe. C'est la question qui est la plus revenue.
Ah bon ? Alors, je vais percer le mystère. Déjà, il y a un truc de nature humaine qui fait qu'il y a des gens qui sont lèvent tôt et des gens qui sont lèvent tard. Alix et moi, clairement, on fait partie des lèvent très tôt.
Et donc, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, disait ma grand-mère.
Et nous, notre père nous a répété toute notre enfance. Non, donc on est naturellement couche tôt, lève tôt, déjà ça aide. Et après, on a compris la sensation d'accomplissement de faire des choses tôt le matin. Et concrètement, maintenant qu'on a chacune nos boîtes, des enfants, etc., c'est que je n'ai pas le temps de courir, à part si je me lève avant que les enfants se lèvent. Donc, ils se lèvent à 7 heures, il faut que je me lève à 6 heures si je veux aller courir mes 10 km.
Tu cours 30 km par semaine ?
Ouais, je fais à peu près 10 km, 3 footings de 10 km. Et du coup, je me lève, mais sans réfléchir, parce qu'il ne faut pas réfléchir. Hein. Il faut se lever, enfiler sa tenue, ne même pas se dire « je vais juste me faire un thé », etc. Et boum, on sort sans même se poser une seule question. Et je pense que les 10 premières minutes sont compliquées, mais après d'avoir le Paris qui se lève avec la Seine qui est toujours plate comme un lac, les couleurs, etc., c'est suffisamment nourrissant pour avoir envie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois, avec un bon podcast sur les oreilles.
Du coup, en écoutant des podcasts
ouais. Je cours en écoutant des podcasts et ensuite, y a la satisfaction qui, franchement, moi, me transporte toute la journée. C'est déjà la sensation du footing dans le corps qui est quand même difficilement descriptible, mais assez descriptible, mais assez incroyable. Et c'est en fait de rentrer en ayant fait ça, quand mes enfants se réveillent, je leur prépare le petit-déj et je vais me doucher pendant qu'ils prennent leur petit-déj.
Et après, tu vas bosser.
Et après, je vais bosser. Et en fait, plus je suis fatiguée, plus je cours. Parce qu'en fait, ça vraiment, c'est d'inverser l'énergie. Et du coup, je passe une journée où j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver parce que ça m'a organisé toutes mes pensées. Et en vrai, c'est le seul moment aussi que j'ai vraiment pour moi,
voilà,
le footing.
Ça. Mais tu fais un peu de yoga aussi.
Et je fais un petit peu de yoga, mais moins qu'Alix. Mais je fais pas de yoga parce que j'étais quand j'avais mon atelier à Villejuif jusqu'à il y a peu, donc je pouvais pas faire des cours pendant.
Il était à Villejuif ton atelier.
Ouais, ouais. Avant qu'on ait la boutique. Et du coup, là je m'y remets, mais donc je commence à un stade de raideur absolument délirant parce que le footing raidit beaucoup, donc j'ai du boulot.
Lila demande si tu devais créer une marque de vêtements, quelle serait son identité.
J'en créerai jamais.
Au moins, c'est clair.
Parce que pour avoir passé 15 ans aux côtés de ma sœur qui a créé Hamstone, non, puis moi, je pense que ça serait une marque hyper basique. Ça serait un peu chiant, ma marque. Beaucoup moins drôle qu'Hamstone.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci.
Je te souhaite un très bel été.
Merci, c'était très bonnes sympa
vacances.
De t'avoir vu.
Moi aussi. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.